Nicolas Deben, vous êtes proviseur de l'école internationale à Manosque, une école absolument magnifique.
Oui, c'est un bel outil de travail pour les élèves et pour les personnels, tout à fait. Puis c'est vraiment une école très particulière et unique au regard de notre offre éducative et pédagogique, de sa genèse et de sa conception en lien avec le projet ITER, de la population qu'elle accueille. Où c'est un petit bout du monde sur quelques hectares dans les Alpes de Haute-Provence.
En se promenant, on voit des enfants visiblement qui viennent du monde entier. Alors cette école a été créée en quelle année et pour quelle raison ?
Elle est créée en 2006, au moment où naît le projet ITER, et donc en lien avec le projet ITER, pour accueillir majoritairement, à hauteur de 70-75%, les enfants des personnels venant du monde entier et qui travaillent sur ce projet de recherche sur l'énergie et sur la fusion, j'en dirai pas plus, c'est assez technique et c'est pas mon métier, mes parents d'élèves le feraient beaucoup mieux. Mais voilà comment naît l'école, quand la France propose d'accueillir le projet ITER, il y a en contrepartie la mise à disposition d'une école publique, c'est une école publique française comme n'importe quelle école du territoire, mais avec une offre pédagogique et 6 langues de section pour permettre aux enfants des personnels d'ITER de pouvoir continuer à travailler leur langue natale majoritairement, même si certains pays partenaires d'ITER ne sont pas représentés en termes de section, et une école européenne majoritairement en langue anglaise pour aussi permettre cet accueil. Donc c'est vraiment une offre éducative unique. Et sur les sections internationales, pour conclure, on a une section britannique, une section chinoise, une section japonaise, une section italienne, une section espagnole et une section allemande.
Je suppose que tous les enfants apprennent le français également.
Et tous les enfants apprennent le français, bien évidemment, assez vite, oui, avec des programmes particuliers, hein, de FLE, comme on dit dans notre jargon, pour les nouveaux arrivants, qui petit à petit rejoignent l'ensemble des cours, mais au début ont une dose importante de français, qui est à la fois une discipline, hein, et qu'on retrouve aussi dans tous les autres enseignements qui ne sont pas dans la langue de section. On est à peu près sur 50% en langue de section et 50% en langue française. Au primaire, c'est exactement ça. Lundi, jeudi en français, mardi, vendredi en langue de section ou l'inverse. Et après, sur le secondaire, la quotité est un petit peu inférieure à 50% pour la langue de section, mais va de la sixième à la terminale, aussi alternée entre des disciplines enseignées en langue de section, ce qu'on appelle des DNL dans notre jargon, bien évidemment de la littérature et de la culture de la langue, et à côté des disciplines enseignées en français.
Combien d'élèves suivent les enseignements dans votre école ?
Un petit peu plus de 950 élèves, 450 au primaire et un peu plus de 500 au secondaire.
De l'école maternelle jusqu'au bac.
Oui, c'est une des spécificités de cette école. Peu de proviseurs ont des enfants de maternelle, mais voilà, moi ça va de la petite section à la terminale, donc on est de 3 à 18 ans en gros dans l'école, avec ces trois pôles que sont la maternelle, le primaire, enfin l'élémentaire pour être très précis, et le secondaire.
Lors de la visite que nous avons effectuée assez rapide de votre établissement, un établissement magnifique. Hein.
Oui, on a un architecte brillant qui a mené ça de main de maître, qui se spécialise dans les écoles internationales, qui vient aussi de réaliser la CSI à Marseille. Un très beau bâtiment, entièrement de plein pied, avec pas de couloir. Hein, pour un personnel de direction qui gère un établissement, le couloir est toujours une zone sensible, qui peut générer des conflits entre élèves, et en tout cas qui est une zone à surveiller. Ici, on n'a pas de couloir, donc j'ai la chance d'avoir quelques coursives extérieures. Mais voilà, un très beau bâtiment. Et aussi des équipements de très haut niveau pour un établissement scolaire. On est passé au gymnase, vous l'avez vu, avec un mur d'escalade. Voilà, on est passé dans les gymnases.
L'amphithéâtre.
Un amphithéâtre qui permet d'accueillir des conférenciers, de créer des événements autour de la culture, du cinéma, de la science, de plein de thèmes. Le pôle culturel aussi que vous avez pu entreapercevoir avec voilà, une BCDI... Qui est aussi source de projets et plusieurs lieux vraiment, vraiment sympathiques pour les élèves. On travaille d'ailleurs beaucoup en ce moment sur le bien-être, et je pense que l'architecture de l'établissement est aussi un facteur de bien-être pour les enfants qu'on accueille. Donc c'est parfaitement en phase avec nos projets.
C'est le sentiment premier qui vous saisit lorsque vous entrez je parle pour ma propre personne, dans cet établissement, c'est absolument magnifique. Bois, béton brut, beaucoup de plantes, et effectivement, vous l'avez dit, pas de couloir, mais des allées, on pourrait dire ça comme ça. Et il y a également des patios, des cours ouvertes sur le ciel pour Chaque section différente.
Tout est construit, voilà. Le cœur du projet, c'est plusieurs patios. Alors, il va y en avoir un qui va être la cour de la maternelle, un qui va être la cour de l'élémentaire, hein, la cour du secondaire, le fameux pôle culturel que je mentionnais. On a aussi ce patio au niveau de l'internat, parce qu'on a, on a quelques internes. Et autour, des coursives qui desservent les salles de classe. Donc oui, un espace apaisé, un espace très vert, vous l'avez vu. Très, très planté sur les allées, la prairie derrière qui est aussi un vrai terrain pédagogique, hein, sur le développement durable, où on a un jardin pédagogique, donc le projet s'appelle Prairio, c'est les enseignants de SVT qui ont initié ça, pour recréer quelques espaces naturels avec des plantes locales. On a, je vous ai montré, installé des tables de pique-nique en bois qui sont des salles extérieures, en fait, hein, que les enseignants peuvent réserver pour aller faire cours dans la nature. C'est l'idée du concept, pour aussi voilà, se reconnecter à un moment avec la nature et se dire que peut-être le cadre permet de faciliter la transmission des apprentissages.
Vous avez beaucoup d'intervenants extérieurs en plus des professeurs ?
Oui, c'est un établissement, et ça, c'est, je tire un coup de chapeau aux équipes. C'est un établissement très dynamique avec des enseignants très engagés qui, bien évidemment, sollicitent régulièrement des intervenants extérieurs pour arriver avec leur expertise et enrichir et nourrir notre offre de base. Voilà, on avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, une prix Nobel, Madame Lhuillier, qui a fait une conférence il y a une semaine avec d'autres chercheurs en physique, parce que c'est l'année de la physique quantique, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. mais voilà, c'est l'année de la physique quantique, donc on a eu cet événement, et c'est vrai qu'avoir, même si c'était en visio, parce que le déplacement qui était prévu à la base n'a pas pu se faire, mais une prix Nobel, on n'en croise pas tous les jours non plus. Donc ça vient nourrir ce que font les enseignants, et on a ça sur plein de thèmes. On a eu un bel événement autour du cinéma au mois d'avril. C'est très très rythmé. J'étais hier à la chorale, ce soir je serai à la représentation de théâtre du lycée. Voilà, c'est un établissement avec beaucoup de projets, beaucoup de vie. Une association de parents aussi qui s'appelle IPM, qui est très dynamique et qui nous aide aussi beaucoup à la construction de ces événements, parce qu'il y a toujours une logistique derrière. C'est très beau quand le produit est fini, mais c'est du temps et de l'engagement, et les bénévoles de l'association des parents sont toujours là pour soutenir ça. Voilà, on aura la kermesse des petits dans pas longtemps, et régulièrement on en a croisé là, les primaires qui travaillaient sur les plumes, ça c'est des intervenants extérieurs qui sont venus, je sais pas quel est le projet, on sait pas tout des fois dans son établissement, mais voilà, on travaillait sur la faune et la flore, et en particulier là la faune et la plume, donc je présume qu'il y avait un projet ornithologique derrière, mené par des enseignants de primaire.
Alors dans un tel lieu, on imagine que les résultats, c'est un niveau d'excellence pour ce qui concerne les études.
Les résultats sont excellents. On a 100% sur tous les paliers d'examen, que ce soit les examens de l'école européenne, du bac ou du diplôme du brevet, avec à chaque fois en plus un petit plus à ce diplôme, hein, où c'est un bac international, ou un bachibac, ou un abibac, qui sont des diplômes binationaux allemands et espagnols. Le bac européen est quand même très particulier. Il y a 4 écoles européennes en France qui préparent à ce bac-là. Et les brevets, les diplômes nationaux du brevet, le diplôme national du brevet qu'obtient notre élève lambda, est aussi à caractère international, avec option internationale. 100% partout, et puis cette excellence, et ça c'est le fruit du travail des enseignants et puis de l'engagement de nos élèves et des familles. Elle se traduit aussi sur les orientations post-bac, où elles se font à l'échelle du monde, dans les meilleures universités. Voilà, ça peut aller à McGill au Canada, aller dans les universités prestigieuses du Royaume-Uni, dans des classes prépa françaises très renommées, à Sciences Po, dans des universités européennes, dans des universités asiatiques aussi, vu qu'on a une partie de la population qui vient d'Asie et qui parfois retourne pour les études supérieures là-bas, mais très souvent sur des études demandées de haut niveau, et où le parcours sup, qui est la hantise de tout futur bachelier, se passe normalement pas trop mal pour nos élèves, s'ils sont dans ce dispositif, parce que pour aller au Canada, il n'y a pas de parcours sup, bien évidemment, mais voilà, des poursuites d'études prestigieuses. On travaille d'ailleurs là depuis un petit moment sur le réseau d'anciens pour nourrir la réflexion des nôtres et peut-être donner des idées, et puis pouvoir accompagner, faire un petit peu de réseau, obtenir un stage. C'est un peu le but ultime de ce réseau d'alumni qui se constitue.
Est-ce que pour ce qui concerne les enfants, lorsqu'ils arrivent, même s'ils viennent en général avec leur famille, il y a un déracinement à gérer pour vous ?
Oui, évidemment, c'est un des facteurs et ça, c'est un des axes de travail là, du projet sur le bien-être, c'est cette gestion de l'expatriation et cette gestion du déracinement. Parce que quand on a 8 ou 10 ans et qu'un repas de famille, papa ou maman vient dire « super, j'ai une magnifique proposition pour aller à Manosque travailler au sein de ITER », bon, bah, pour le parent, c'est fantastique. Pour l'enfant, ça va surtout correspondre à « je vais laisser mes copains, je vais laisser ma famille, autre que vous, mes parents et ma fratrie, je vais laisser mon club de sport, ma pratique de n'importe quelle activité, pour aller dans un pays dont je ne parle pas la langue, dont je n'aime pas forcément la nourriture, ou qui va être en tout cas très différente de la mienne. » Et donc il y a tout un process d'accompagnement à mettre en œuvre pour faciliter cet accueil. Donc ça, on y travaille aussi pareil, c'est un des axes du bien-être, comme je le disais. Mmh. Donc on est en train de préparer une visite virtuelle pour aussi commencer à se familiariser avec les lieux et pouvoir un petit peu anticiper de chez soi et se promener dans les allées comme on l'a fait. Et on va la nourrir aussi avec des petites capsules qu'on va essayer de faire dans toutes les langues des pays représentés qui viennent à l'école pour qu'il y ait des témoignages de pères disant voilà, bah ça c'est la cantine, en fait c'est pas si mal que ça, il y a une petite dimension surprise parce que c'est pas tout à fait notre culture alimentaire, mais on y est bien, on regarde les terrains de sport, moi je fais l'association sportive basket, il y a aussi du badminton à midi, et voilà, et avoir plein de petits témoignages comme ça de futurs camarades pour rassurer celui qui va arriver et qui le vit de son échelle d'enfant avec ce qui lui importe à ce moment-là. Et ce qui est important pour nous, c'est d'aller conforter ça et de le rassurer. Et puis après, on travaille aussi sur un système grand frère, grande sœur pour aider au moment de l'accueil et qu'il y ait un peu un référent, qu'il ne soit pas un adulte, on n'a pas la même liberté de parole et qu'il puisse, allez, viens, je t'emmène à la salle, on va la trouver plus facilement. Qui puisse être aussi un moment d'écoute peut-être pour dire ça c'est difficile, les devoirs, la prise de connaissance du terrain et du territoire au sens plus large. Donc on essaye d'accompagner au mieux cette dimension-là.
Pour le grand frère d'ailleurs ou la grande sœur, c'est aussi très bénéfique, ça lui permet aussi de travailler un peu l'attention aux autres ou le...
Tout à fait. Si on serait dans le cadre du développement des compétences psychosociales, où d'une part on va savoir développer de la communication, de l'accompagnement, de la collaboration, de la coopération, et c'est très bien. Pour ces enfants, on va valoriser, parce qu'on va aussi prendre le temps de remercier ces enfants qui s'engagent pour leurs camarades, et que je pense qu'on crée un cercle vertueux à soutenir ces démarches-là et à reconnaître qu'ils sont d'une grande utilité pour leurs camarades.
Concernant le bien-être des enfants, est-ce qu'il y a des cuisiniers qui cuisinent plusieurs cuisines du monde entier ou pas du tout ?
Vous les habituez ? On a un chef qui est vraiment super, on a beaucoup de chance, qui va au rythme des menus quand même essayer des fois de faire un petit clin d'œil à chacune des communautés qu'on accueille, et puis qui fait du mieux qu'il peut dans les budgets contraints que l'on peut avoir en restauration scolaire, mais pour avoir une petite attention, un petit dessert un peu sympa ici, une entrée un peu plus travaillée, un choix quand même assez large de plats pour le repas, toujours un plat végétarien, toujours au moins un poisson et une viande, plusieurs accompagnements pour qu'il y ait quand même un petit peu de choix possible pour les enfants. Donc non, on a beaucoup de chance, tout est fait sur place, on essaye de travailler au maximum en circuit court. Il y a un vrai soin porté à la cantine. Alors après, on aura toujours un enfant qui dira qu'il n'y a pas assez de frites, qu'il n'y a pas assez de pâtes. C'est un grand classique d'établissement scolaire, mais on est plutôt pas mal.
Un proviseur heureux, hein.
Oui. Il y a plus cruel comme poste. Il y a plus cruel. Non.
Quelle est la relation avec les pays d'où proviennent les enfants et leurs familles ?
Elle est très, très cordiale et on a plusieurs relais au niveau de ITER pour essayer de trouver la meilleure offre qui va réussir à réunir les différences de culture aussi et d'attentes par rapport à l'école que peuvent avoir différents pays et sans aucun jugement des attentes de chacun. Mais certains vont avoir plus d'exigences et être sur une recherche d'excellence en maths, par exemple, alors que d'autres vont vouloir qu'on développe un peu plus l'offre sportive, l'offre culturelle. Et il faut qu'on arrive à un petit peu réunir quelque part toutes ces attentes au travers de notre offre pour satisfaire le mieux possible le public qu'on accueille et de faire de ces différences une richesse dans la conception de ce qu'on va proposer. Donc on va dire qu'on pourrait avoir une offre éducative française nourrie de toutes ces influences pour essayer d'en faire l'offre la plus performante, en toute humilité bien évidemment.
Quels sont les pays avec lesquels il y a la plus grande différence selon vous ? Vous me parliez des États-Unis par exemple, c'est pas une si grande différence ?
Non, c'est pas une si grande différence. Et après, je sais pas, les États-Unis par exemple, quand on travaille sur le bien-être, là, j'essaye de m'inspirer aussi de tout ce qu'ils ont par rapport à ce qu'on appellerait le belonging, le sentiment d'appartenance à son établissement, qui est un vrai vecteur de meilleure performance. Quand on sent qu'on appartient à cette communauté, qu'on est bien dans son établissement, normalement on y travaille mieux, si tout se passe bien. Donc ça, voilà, on peut s'inspirer de certaines pratiques que pourraient avoir les anglo-saxons et qu'on n'a pas nous forcément. On vient définir une mascotte, par exemple, de l'école. Donc ça, on l'a fait, c'est un sondage auprès des élèves. C'est les élèves qu'on choisit, on a mis tout un panel d'animaux, le renard a gagné. Après, c'est dans le cadre de l'art plastique où les élèves se sont emparés du design de cette mascotte, après avoir identifié l'animal. Ça, c'est peut-être un petit peu une philosophie anglo-saxonne qui peut aider à développer ce champ-là. Et je pourrais prendre dans chacun des pays un exemple de ce que ça peut nous apporter.
Vous évoquez le fait que 75% des élèves avaient la famille qui travaille à ITER, à Cadarache. D'où viennent les 25 ou 30% qui restent ?
Ils viennent du territoire élargi, donc on va aller jusque dans les Hautes-Alpes et jusqu'à Briançon, par exemple. On peut aller sur le département des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, pourquoi pas du Var, donc on a quelques places d'internat. Et il y a aussi une idée d'essayer de réussir à garantir quelques places pour les élèves vraiment du secteur et de Manosque. Et si on pouvait un peu rejoindre la philosophie de la cité scolaire internationale de Marseille sur une mixité sociale, je dirais que là, je serais vraiment ravi qu'on puisse offrir cette offre éducative de grande qualité à des jeunes motivés, mais venant d'un milieu économique un peu plus fragile, pour leur permettre d'avoir une très belle carrière par la suite. Je vais remercier à nouveau les équipes parce que voilà, cette forme d'excellence qu'on a évoquée, cet accueil qu'on peut garantir aux élèves, c'est le travail de mes collègues. Moi, je ne fais pas grand-chose. Faut vraiment saluer cet engagement, cette richesse aussi multiculturelle qu'ils portent, parce que souvent, c'est des natifs, et que c'est grâce à l'engagement quotidien de tous ces personnels que le IPACA est ce qu'elle est. Donc, s'il y a un mot de conclusion, c'est les remercier de cet engagement.
Quel est le rapport avec Manosque elle-même ?
Avec Manosque, c'est très sympathique. Et on a un maire vraiment très sympa sur Manosque qui est aux côtés de l'école sur les demandes qu'on peut avoir. On avait une dimension de sécurisation, par exemple, à des abords avec des barrières à mettre devant l'école. Parce que moi, je craignais un mouvement un peu de foule où un enfant peut tomber du trottoir. Ça a été extrêmement réactif. On se voit régulièrement avec monsieur le maire. Et Manosque et la DLVA aussi, parce qu'il y a eu un transfert à un moment de compétence. Donc il faut aussi associer, je pense, la communauté de communes et donc des LVA qui pilotent toute l'offre périéducative de l'école primaire et de la maternelle et qui est un vrai acteur aussi de ce qu'on fait dans l'école et dont la collaboration est extrêmement efficace et de qualité.